La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur. Bienvenue à vous tous ici dans cette maison de prière. Bienvenue à ceux qui poussent cette porte du temple pour la première fois. Vous êtes ici chez vous, ici dans cette communion fraternelle. Ce matin, nous allons avoir la joie de baptiser un petit garçon. Et nous sommes très heureux d'accueillir sa famille avec ses frères et sœurs, ses parents et tous ceux qui sont venus autour pour louer le Seigneur avec nous pour ce grand moment. Nous allons vivre un temps particulier ce matin puisque nous aurons ce matin la première partie d'une série de 3 prédications sur le ciel. Voilà, je vous propose ce cycle-là à partir de ce matin. Je vous invite à prier pour entrer dans ce temps de culte. Seigneur, rassemblés ce matin dans ton Église, permet que nous soyons une communauté de prière et de joie autour de l'enfant qui reçoit le signe de ta grâce ce matin. Que ton Esprit Saint coule sur nous comme l'eau du baptême. Nous te remettons nos vies, nos proches, tous ceux que nous portons dans la prière. Et nous nous unissons ensemble dans la communion fraternelle. Et je vous invite à chanter ensemble, bénissons le seul Seigneur. Nous louons Dieu avec le psaume de David, le psaume 19, enfin une partie du psaume 19, du chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ces erreurs involontaires? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi. Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Je vous invite à chanter notre louange avec le psaume 116 dans les psautiers français. Le 116, je crois que c'est B, la version B.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Écoutons ce que le Seigneur nous dit pour notre vie. Dans les évangiles, il est raconté, un jour Jésus appela un enfant, le plaça au milieu de ses disciples et dit, Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Et nous nous présentons devant le Seigneur avec cette prière d'Anselme de Canterbury. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me le cache pas. Enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher. Où et comment je te trouverai. Puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas? Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible, mais où resplendit-elle cette lumière? Et comment parvenir jusqu'à elle? Qui me guidera? Qui m'introduira pour que je puisse te voir? Regarde-moi, Seigneur, et exauce-moi. Donne-moi la lumière, montre-toi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver, car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder. Aide-moi, apprends-moi à te chercher, car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas, ni te trouver si tu ne te montres pas à moi. Fais, Seigneur, qu'en t'aimant, je te trouve et que je t'aime en te trouvant. Amen. Le Seigneur se rend tout proche de nous. Dans le psaume 145, il est écrit « Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui le réclament avec sincérité. Le Seigneur dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Que cette foi nous accompagne et nous guide. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous asseoir et nous allons maintenant entrer dans cette liturgie du baptême. Chers amis, vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême, comme les frères et sœurs de cet enfant l'avaient déjà reçu. Avec les parrains et marraines, avec Jean et Alix, c'est ça ? Je vous invite à me rejoindre. Et bien sûr, avec le petit baptisé, dont je tais le nom tout de suite, pour que ses parents puissent avoir le bonheur de nous le donner. L'Église aujourd'hui accueille votre souhait avec joie et affirme sa foi avec les mots que vous-même vous avez choisis. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le seul Dieu, il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer et guérir. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Sa parole est la vérité qui nous rend libres. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu ici-bas. Amen. Je vous invite à chanter. À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir pour entendre l'institution du baptême. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations. Faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Il va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité et qui l'appelle à son service. Il va être baptisé au nom du Saint-Esprit qui fera naître en lui l'espérance, la foi et l'amour. Il y a de l'eau ici qui est de l'eau tout à fait ordinaire, qui aurait pu servir à donner à boire à ce petit enfant, qui pourrait être l'eau qui tombe aujourd'hui du ciel. Mais avec les paroles du baptême, cette eau devient eau du sacrement. Une eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai aussi pour nos enfants, même s'ils sont encore trop petits pour le comprendre. Car Dieu nous a aimés le premier, c'est lui qui nous devance dans cet amour. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui et il nous connaît chacun par notre nom. Sylvie et Aurélien, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ?
Arthur.
Alors je vais maintenant procéder au baptême d'Arthur. Oui ?
Tu veux bien? On y va? Attends, excuse-moi, petite fille. Et je vais vous inviter à préparer vos cantiques avec le 204. Et nous chanterons ce cantique au moment du baptême, quand je vous le dirai. Tu veux? Arthur, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Arthur, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je vous invite à chanter notre louange et notre reconnaissance pour ce baptême.
Je vous invite à vous asseoir et nous allons maintenant entendre les promesses des parents et des parrains-marraines pour ce petit Arthur qui a reçu le baptême maintenant.
Mon cher Arthur, aujourd'hui tu reçois le baptême qui marque ton entrée dans la famille des chrétiens. Ce baptême, nous le souhaitons comme ton premier pas sur le chemin de la spiritualité, de la recherche de Dieu dans ton prochain, de la joie et de l'espérance. Nous serons à tes côtés pour que tu puisses avancer sur ce chemin dans la confiance et dans l'union face aux difficultés. Seigneur, reçois notre petit Arthur dans ton amour. Guide-le pour qu'il se réalise en tant qu'homme et en tant que chrétien. Aide-nous à l'élever dans la foi et dans ta lumière.
Merci. Je crois que les parrains et marraines avaient quelque chose à... Oui.
Mon cher Arthur, C'est avec une grande fierté que ton parrain et moi nous joignons à ta famille pour célébrer ton baptême et ton entrée dans la foi. Nous avons la joie immense de t'accompagner à cette occasion et nous aurons toujours à cœur de remplir la mission que tes parents nous ont confiée. Nous serons là pour t'entourer, t'écouter et nos bras te seront toujours ouverts. Mon petit Arthur, nous te souhaitons une vie merveilleuse, ponctuée de grands bonheurs et d'immenses joies, empreinte de respect, de tolérance, de charité et de bienveillance.
Arthur, tes parents nous ont choisis pour être ta marraine et ton parrain et t'accompagner pendant ta vie d'enfant de Dieu. C'est pour moi également une très grande joie. J'espère que je pourrai te montrer sa lumière sur ton chemin de croyant, te faire découvrir le sel de la rencontre spirituelle et la force de l'espérance en Dieu. Je connais ton papa depuis si longtemps, je profiterai de bons moments avec son kérisson sous le regard de l'Éternel.
Merci. Merci beaucoup. Alors Arthur, est-ce que tu veux aller te promener? Tu veux? Ah, ça te fait rire, toi, hein? Ah ouais? Tu viens? Oui, oui, non, mais là, cette fois-ci, tu vas pouvoir parler dans le micro si tu veux. Regarde, on va aller voir tous ceux qui font partie de ta nouvelle famille. Hein? Regarde. Frères et sœurs, voici Arthur. Il est votre petit frère dans la foi. Vous êtes sa famille spirituelle. Il vient de recevoir le baptême, il est ici chez lui, dans sa maison. Vous prierez pour lui et pour sa famille. Si un jour il vient à se séparer de l'Église, vous affirmerez qu'il peut toujours, quoi qu'il arrive, y retrouver sa place. Ce sera ainsi pour nous et pour lui le témoignage de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous tous. Voilà Arthur, ce sont maintenant, tous ces gens-là font partie de ta famille. Tu vois, vous êtes très très nombreux tout d'un coup. Voilà, je vous invite à regagner vos places avec Arthur, qui a été particulièrement coopératif, qui se sent déjà chez lui, avec ses petites filles aussi, et puis ce grand garçon qui accompagne son frère aujourd'hui. Hein, Jean ? Et nous allons maintenant lire la Bible ensemble. Et nous lirons ce matin la louange du psaume 8, du chef de chœur sur la guittite, psaume de David. Seigneur Adonai, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'esprit, à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs tous ensemble et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Seigneur Adonai, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et je vous invite à chanter ensemble le cantique 163, les strophes 1, 2 et 3. Et peut-être Aurélien va nous jouer la mélodie.
Thank you.
Je vous invite à la prière. Et nous prions avec le docteur de l'église Saint-Augustin. Seigneur, autant que j'ai pu, autant que tu m'en as donné la force, je t'ai cherché et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. Et j'ai beaucoup discuté et j'ai peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. Ne permets pas que je me lasse de te chercher et mets-moi au cœur un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi avec ma force et ma faiblesse. Soutiens l'une, guéris l'autre. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as affermé, ouvre à celui qui frappe. Que je me souvienne de toi, que je te comprenne, qu'enfin je t'aime. Amen. Par son immensité, par l'incroyable beauté de sa voûte, par la violence parfois inouïe des phénomènes, le ciel reste un sujet de fascination, pour l'homme moderne autant que pour l'homme archaïque. Le ciel exprime une transcendance et offre à l'esprit humain une échelle infinie, propre à se mesurer lui-même et à s'interroger. Qu'est-ce donc que l'homme pour que tu t'en souviennes, le fils d'Adam pour que tu en aies souci? Dans son livre Terre des hommes, Antoine de Saint-Exupéry écrit « Une nappe tendue sous un pommier ne peut recevoir que des pommes. Une nappe tendue sous les étoiles ne peut recevoir que des poussières d'astres. » Et plus loin, il continue, le plus merveilleux était qu'il y eût là, debout sur le dos rond de la planète, entre ce linge aimanté et ses étoiles, une conscience d'homme, dans laquelle cette pluie put se réfléchir comme dans un miroir. Cet émerveillement et ce sentiment d'une harmonie entre les hommes et l'immensité du cosmos pose la question de la relation entre l'homme et ce qui le dépasse. Entre finitude et infini, l'esprit humain est tenu dans une posture étrange de se savoir mortel et limité, et en même temps de pouvoir penser dans son esprit mortel et limité l'infini et l'immortalité. Son imagination le mène vers des échelles de temps et d'espace qui le dépassent et pourtant l'habitent. Sans doute est-ce pour cette raison que le ciel a été de tout temps choisi pour exprimer ce qui excède notre condition humaine et exprime le mieux une transcendance à la fois lointaine et familière. Cette fascination pour l'immensité du ciel est telle que l'homme a voulu la diviniser ou y installer Dieu. Dans son traité d'histoire des religions, Mircea Eliade montre, par les exemples qu'il décrit, que le ciel a d'abord été le lieu d'une expression symbolique de la transcendance, offerte immédiatement à l'esprit émerveillé. Nul besoin de rationaliser la relation à Dieu, le ciel, par la fascination qu'il provoque, suffirait à faire naître le sentiment religieux dans le cœur de l'homme. Dans maintes religions dites archaïques, car très anciennes, mais qui ont laissé des traces dans nos religions, on prie le ciel comme on prie Dieu. Le ciel est alors l'image de la grandeur de Dieu. 5000 ans avant notre ère, des peintures rupestres du nord de l'Italie nous montrent des hommes en prière levant les bras au ciel. Dans le panthéon des Égyptiens antiques, le ciel est divinisé en la personne de la déesse Nout, la voûte céleste, épouse du dieu de la terre, Geb. Les Mésopotamiens, eux, voient le ciel au-dessus et en dessous de la terre où les hommes vivent. Cette terre appartient aux dieux qui vivent dans le ciel. Il y a donc les dieux d'en haut et les dieux d'en bas. Bien sûr, ces conceptions mésopotamiennes vont influencer les auteurs de la Genèse qui, revenant d'exil de ces contrées lointaines où l'on divinise le ciel, prendront le parti de se démarquer clairement d'elles en insistant sur la séparation entre Dieu et le ciel. En effet, dans le récit de la création en 7 jours, l'Heptaméron, le ciel, comme toute autre chose existante, est une créature de Dieu. Le résultat de séparations successives dans un chaos primordial. Et cette cosmogonie biblique cherche à répondre pour l'homme à des questions de foi. Dieu est-il à l'origine du monde? Quelle place l'homme a-t-il dans la création? Quelle liberté pour les créatures de Dieu? Et sa manière d'y répondre est celle de l'ordre, ordonner les choses, ordonner pour comprendre, séparer pour sortir de la confusion. Tel est le projet d'une telle cosmogonie. Ainsi, la lumière est-elle séparée des ténèbres, de même que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont-elles séparées les unes des autres? Et au 4e jour de l'Heptaméron, les luminaires, le soleil et la lune, sont placés dans le ciel pour être garants d'un temps que l'homme pourra enfin compter, jour après jour, mois après mois, année après année. La Genèse désacralise le ciel pour mieux sacraliser un Dieu créateur qui se repose de sa création et du même fait semble se retirer d'elle. Dans la foi des rédacteurs de la Genèse, de Genèse 1, le premier récit de création, Dieu n'est donc pas au ciel, mais il est le grand principe qui préside à la compréhension du monde. Il rend intelligible un chaos redoutable pour l'homme et se fait donc proche des hommes en rendant le ciel non plus inquiétant par son immensité, mais fonctionnel, car il permet de compter le temps. De là viennent les pluies qui fertilisent les sols aussi, et de là viennent les jours, les nuits. La régularité apparente des mouvements des astres tente à faire penser que les soubresauts du monde sont tenus en respect par de grandes lois que Dieu impose à la création. Ainsi, c'est la foi même qui est influencée par cette conception du Dieu créateur, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette façon liturgique de présenter la création avec son rythme, son équilibre, son ordre, n'est pas une façon d'éloigner l'homme de Dieu, mais par une distance infranchissable, mais de mettre Dieu au service des hommes, en rendant compréhensible ce qui n'était qu'un magma inquiétant et sans aucun sens, où l'homme aurait pu se perdre. Dieu, par sa création, laisse l'homme comprendre le monde et donc le ciel. D'où cette louange rendue à Dieu dans le psaume 8, « Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » À trop vouloir rendre compréhensible l'œuvre de Dieu, n'est-on pas tenté d'en faire un Dieu de la terre, ou plutôt un Dieu terreux comme Adam, l'homme dont le nom veut dire terre? Qu'en est-il de la foi dans le transcendant quand la distance entre Dieu et l'homme s'amenuise? Le Dieu qui se fait proche est-il encore divin? Les mots pour dire Dieu témoignent de la relation entre le ciel et Dieu. En langue biblique, Elou, Dieu, vient d'une racine qui signifie ce qui est clair, ce qui est brillant, ce qui évoque évidemment la lumière du ciel, mais qui peut aussi nous ramener symboliquement à la lumière de la vérité, de la signification, de l'intelligence du monde. Ainsi, ce que nous appelons Dieu ne serait-il que notre capacité à rendre intelligible notre monde, à percer le mystère de l'inconnu pour nous faire les égaux de Dieu? Toute la révélation contenue dans la Bible oscille entre la foi en un Dieu absolument autre et enfermé au ciel et un Dieu absolument proche qui déchire le ciel pour rejoindre les êtres humains. Dans le récit de la tour de Babel, les hommes construisent une tour pour toucher le ciel. Et Dieu condamne cette soif de proximité et de confusion entre le divin et l'humain. Il brouille les langues des hommes pour qu'ils ne puissent plus l'inquiéter dans sa divinité. Au contraire, dans les récits de l'Exode, Dieu se tient dans une nuée qui précède la marche du peuple, comme un morceau de ciel descendu sur terre. Cette nuée les rencontre, va à la rencontre de Moïse avec Dieu. Moïse rencontre donc Dieu. À certains moments du texte présenté, Moïse est présenté comme Dieu sur terre. Il y a là une proximité incroyable entre Dieu et l'homme. Les auteurs de la Bible n'attendent pas la venue de Jésus pour parler d'un Dieu proche et partenaire des hommes. Ils montrent un Dieu qui les précède sur le chemin. Et étrangement, certains témoignages dans les évangiles laissent penser au contraire que Dieu est enfermé au ciel. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit ces paroles de Jésus: « Celui qui jure par le temple jure en même temps par celui qui y habite, et celui qui jure par le ciel jure en même temps par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. » Ce n'est donc pas parce que l'on confesse la venue du Fils de Dieu que l'on abandonne l'idée du ciel comme demeure de Dieu. Les gnostiques, farouches opposants à la matière et à toute création, ont combattu l'idée selon laquelle Dieu demeurerait au ciel, car pour eux le ciel est matériel, car il est habité des astres. Pour eux, tout le monde visible est mauvais et l'œuvre d'un Dieu trompeur qui enferme les âmes dans la matière. Les gnostiques ont combattu l'incarnation et croyaient en un Jésus non incarné, non humain, un envoyé de la lumière qui serait libre de toute attache charnelle. Ils prônent la connaissance de soi comme accès à la divinité. Dans l'évangile de Thomas, au Logion 2, il est écrit « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est au-dedans et il est au-dehors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » On est loin ici de la lecture de Socrate du « Connais-toi toi-même » inscrit au frontispice du temple de Delphes. Pour lui, cette devise devait enjoindre l'homme à prendre conscience de sa mesure pour ne pas être tenté de rivaliser avec les dieux. Ici, au contraire, Dieu est à trouver à l'intérieur de l'homme. Pour les gnostiques, le divin est en l'homme, confondu avec lui. Et l'immortalité, l'immatérialité sont les buts recherchés par ces adeptes de la désincarnation. Si le ciel n'est pas la demeure de Dieu, sommes-nous pour autant nous-mêmes la demeure de Dieu? Et dans ce cas, qu'en est-il de la transcendance du divin? Quelle est la juste distance entre nous et Dieu ? Calvin, dans son Institution de la religion chrétienne, écrit « Presque toute la sagesse que nous possédons présente un double aspect, la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Bien que ces deux connaissances soient liées, il est difficile de discerner laquelle précède l'autre. » Voilà ce que Jean Calvin écrit. Chez Calvin, Dieu reste Dieu. Et c'est dans la foi que se révèle ce que nous sommes et ce qu'est Dieu. Dans la foi, nous reconnaissons son action sur nous et notre dépendance à sa toute-puissance. Pour Calvin, le ciel est toute la création. Le ciel et toute la création est le théâtre de la gloire de Dieu. Comme le langage d'un Dieu qui se ferait connaître de l'homme, pour que l'homme se révèle enfin dans sa véritable vocation, pour qu'il comprenne son rôle et sa place. Le ciel est pour lui, pour Calvin, peuplé d'anges qui sont au service de Dieu pour nous garder de tout danger. Et tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour nous, les humains. Dieu n'est donc pas enfermé au ciel, pas plus qu'il n'est enfermé en nous et confondu avec nous. Entre la transcendance absolue et la confusion complète, la foi ouvre un espace habitable pour la relation entre l'homme et Dieu. Cet espace est celui d'une dépendance choisie librement, d'une alliance entre l'homme et Dieu. Dieu se choisit un peuple, il donne son amour à l'homme. Il croit en l'homme et en sa capacité à être digne de confiance et reste fidèle, quoi qu'il arrive. L'homme choisit librement de placer sa confiance dans un être transcendant qui le libère de sa finitude. C'est dans cette foi partagée que se trouve la vérité de notre relation à Dieu. Nous n'avons plus à nous prendre pour des dieux, nous n'avons plus à chercher à toucher le ciel. Nous n'avons pas à renoncer à notre humanité. Au contraire, c'est notre humanité qui se révèle à mesure que la transcendance de Dieu se révèle. Chaque acteur de l'Alliance peut être librement ce qu'il est par rapport à l'autre. Étrangement, la vérité de cette relation découle non pas d'une connaissance de ce que c'est que Dieu, ni d'une connaissance de ce que c'est que l'homme. La vérité de cette relation vient de l'inconnu toujours présent entre les deux, un espace libre à inventer ensemble, une ignorance de principe, puisque les deux sont libres d'agir à tout moment selon leur liberté. L'imprévu de Dieu, l'inattendu de Dieu, l'impossibilité de savoir ce que l'homme fera dans la foi, voilà l'espace habité entre Dieu et nous. Ainsi, dans le récit du baptême de Jésus, Jésus vient vers Jean le Baptiste pour recevoir le baptême, confessant ainsi sa condition de pécheur, sa condition d'homme ayant besoin de Dieu. Il ne ment pas sur ce qu'il est, il ne se fait pas Dieu à la place de Dieu. Sa foi n'est ni orgueil ni désespoir d'ailleurs. Il se place dans un mouvement de foi devant Dieu pour recevoir de lui cet agrément si nécessaire à sa dignité d'enfant de Dieu. Il avoue simplement qu'il a besoin de Dieu. Dans le même temps, Dieu choisit en toute liberté de faire de lui son fils. Et c'est à ce moment-là que le ciel retentit de cette relation incroyable entre l'homme et Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie. Jusque-là, le ciel disait la gloire de Dieu et toute sa puissance. Avec l'acte de foi de Jésus, le ciel dit la joie de Dieu pour une humanité pécheresse, mais qui se présente à lui dans sa sincérité. Un homme qui ne fuit plus, comme Adam dans le jardin. Un homme qui se présente dans toute sa confiance. Alors, frères et sœurs, en humanité, si vous tournez vos regards vers le ciel pour chercher Dieu, écoutez ce qu'il vous dit sans cesse en Jésus le Christ. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets ma joie. Et que cette joie soit entière pour votre vie. Même tournée vers l'infini du ciel, votre foi n'est pas vaine. Elle transforme votre vie et dresse un pont entre le ciel et la terre. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 289, les strophes 1, 2 et 3.
Merci Gérard. Voici le temps des annonces qui seront courtes puisque nous sommes en période de vacances scolaires et que ce culte est animé par plein de petits-enfants très sages. J'ai vu qu'Arthur sera un fidèle chanteur puisqu'il a eu beaucoup d'intérêt pour nos livrets de psaumes. Il a feuilleté le psaumier français et louanges et prières. Nous espérons que bientôt il viendra ainsi que ses frères et sœurs et tous ses enfants ajouter leur voix dans cette église. Merci à notre pasteur Béatrice Cléromazir pour cette prédication qui nous fait comprendre que la foi est nécessaire pour comprendre, connaître le monde dans sa création et surtout être proche de nos frères et sœurs en Dieu. Merci à Aurélien Peter qui nous accompagne à l'orgue. J'ai pu comprendre qu'Aurélien ne souhaitait pas que l'on applaudisse à la fin du culte son dernier accompagnement musical, car pour lui cela fait partie de la liturgie. Chacun a une sensibilité différente dans le protestantisme et je crois que c'est ce qui fait notre richesse. Il y aura donc peu d'activités cette semaine, pour ne pas dire presque pas. La prochaine activité est l'hébreu biblique découverte de 11h à 10h avec le pasteur Gilles Castelnau, donc samedi 26 octobre, et c'est dans la salle Verne. Nous avons une exposition que vous avez peut-être remarquée, celle de Gaspard de Coligny. Elle est ouverte le samedi de 15h à 17h, mais il est vrai aussi que nous manquons d'un peu de présence pour accompagner cette exposition. Si certains d'entre vous ont un peu de temps, ils seront le bienvenu. Je vous souligne aussi que le 27 octobre, dimanche prochain, nous avons le culte de la Réformation et il sera présidé par notre pasteur Béatrice Cléromazir. Il sera suivi d'un vers de l'amitié. Et le 2 novembre, n'oubliez pas notre récital d'orgue avec Michel Bouvard. Le dimanche suivant sera le culte du souvenir. Je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces et je vous souhaite un beau dimanche. Ah, si, j'oubliais que c'est le moment de l'offrande et comme toujours, nous vous demandons de vous montrer généreux.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, garde-nous toujours émerveillés par la pensée de l'infini et de l'éternité que tu places au milieu de nos vies. Que cette soif d'immensité donne à l'homme l'envie de faire de grandes choses pour son prochain. Garde-nous, Seigneur, d'en faire un orgueil. Permet que nous puissions penser l'infini, non pas pour faire tout ce que nous pourrions pour être tout-puissants, mais pour être, selon la vocation que tu nous donnes, des serviteurs de ta bonne nouvelle pour ce monde. Tous ceux qui sont chargés d'imaginer l'avenir, tous ceux qui inventent les progrès pour demain, éclaire-les, Seigneur, et permets qu'ils puissent avoir des rêves plus grands qu'eux pour l'homme, pour son bien. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui ont perdu la capacité d'émerveillement, qui dans le désespoir ne voient plus que la petitesse de leur vie. Permets, Seigneur, que nous ouvrions les cieux pour eux, qu'une lumière brille dans leur vie et que dans l'amour fraternel que tu nous as appris, ils puissent trouver le réconfort et la consolation pour leur vie. Et nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui autour de nous ont besoin de cette lumière dans leur vie. Et ensemble, nous nous levons pour prier notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, allez annoncer à ce monde que Dieu n'est pas enfermé au ciel, qu'il est en dialogue avec nous sans cesse. Il est avec nous dans nos vies. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui fait grâce nous bénit, nous aime et nous garde. Amen.
Aurélien nous propose aujourd'hui. Merci.